Nous allons donc parler de Jean Calvin, ce grand réformateur protestant, ministre de la parole de Dieu en l'église de Genève, né en 1509, mort en 1564, fondateur du calvinisme, une des grandes familles du protestantisme. Si le protestantisme évoque déjà sobriété, dépouillement du culte, intellectualisme, rigueur morale, le calvinisme en rajoute encore, semble-t-il, dans l'austérité, du moins d'après l'idée qu'on s'en fait couramment. Mais peut-être est-ce là simplement un préjugé, car le calvinisme est fort peu connu du grand public dans les pays de majorité catholique, ainsi que la personne même de Jean Calvin. Or, nous verrons que Calvin, s'il est bien en un sens un personnage austère, est aussi, et presque d'autant plus, un homme enflammé, un homme passionné. Nous entendrons tout à l'heure quelques-uns de ses textes qui nous montreront. C'est presque un mystique, au-delà du grand théologien protestant que l'on sait, auteur d'une des plus vastes synthèses dogmatiques du protestantisme. Nous allons découvrir ce personnage, sa vie, sa pensée et sa théologie, avec Richard Stauffer, qui est en France le principal connaisseur de Calvin et des origines protestantes. Pour situer la réforme calvinienne à Genève dans l'histoire du XVIe siècle, il nous faut cependant partir de plus haut. Calvin est en effet le second grand réformateur après Martin Luther. C'est celui-ci qui, le premier, a répondu de façon adéquate et radicale à la grande angoisse et à l'immense appétit du divin qui caractérise, semble-t-il, le Moyen-Âge finissant. À cette angoisse, à cet appétit du divin, il y a déjà eu des réponses de la part de l'Église catholique elle-même, avec le 5e Concile de Latran, en 1512-1517. Il y a déjà eu d'autre part des réponses dans ce qu'on appelle l'humanisme chrétien, illustré par des grands noms comme Lefèvre d'Étaples ou Érasme, qui notamment éditent et traduisent l'Écriture sainte pour satisfaire la curiosité religieuse du temps. Mais Luther, lui, va prendre le problème religieux de front, va oser penser par lui-même et selon, comme il le dira, sa propre conscience, seul avec Dieu et aussi avec l'Écriture laissée par les premiers témoins du Christ. Selon une image que nous rencontrerons plus tard dans un texte de Calvin, Martin Luther a osé reprendre l'étendard que les soldats et leur capitaine, les soldats et le capitaine de l'Église, ont laissé tomber à terre. Richard Stauffer va donc parler, avant d'aborder Calvin, de Martin Luther et de sa pensée théologique, et même plus précisément de l'événement théologique précis qui inaugure l'entreprise réformatrice de Luther.
Martin Luther, lui, né en 1483 à Eisleben, en Thuringe, j'allais dire aux confins presque du monde civilisé. Martin Luther, lui, a été élevé par les frères de la vie commune, et il a été en contact avec l'écriture, donc dès sa jeunesse. Il va faire des études. C'est un garçon qui sort d'un milieu très simple. Son père était d'origine paysanne. Il était devenu petit entrepreneur de mine. Le père avait des ambitions pour son fils. Et Luther, qui est un brillant élève, va entrer en 1501 à l'université d'Erfurt, une des grandes universités allemandes de l'époque, et il en sortira maître en philosophie en 1505. Son père a de l'ambition pour lui, et ce garçon ne tiendra pas, je dirais, les promesses que son père avait pu mettre en lui. Un événement se produit qui va le marquer profondément. Un jour qu'il traverse une forêt, un orage éclate, et au cours de cet orage, il fait un vœu. S'il en réchappe, il entrera chez les ermites Augustins d'Erfurt. Après un noviciat très bref, il est ordonné prêtre en 1506, et puis il va faire là une carrière extraordinairement brillante. Il est transféré en 1511 à Wittenberg. Wittenberg, qui est une très jeune université de Saxe électorale. Wittenberg, qui est un endroit, un petit village. Wittenberg a 1200 habitants. Une université très récente, elle avait été fondée au début du XVIe siècle par l'électeur de Saxe, qui était très fier de sa jeune université.
C'était un temps où on fondait des universités.
C'est ça.
Comme au temps de Saint-Thomas, d'ailleurs.
Comme au temps de Saint-Thomas, et c'est évident, je dirais, les petits souverains de Germanie créaient leurs établissements. Ils en étaient très fiers. Alors, ce Luther va obtenir en 1512 le grade de docteur en théologie, et il va commenter avec une espèce d'ardeur, avec une espèce de passion extraordinaire. Il va commenter les psaumes tout d'abord, puis les épîtres de saint Paul aux Romains et aux Galates, puis l'épître aux Hébreux pour revenir aux psaumes. Et au cours de cette lecture de la Bible, Luther est obsédé par une question. Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Comment obtiendrai-je un Dieu secourable? Alors, pour comprendre cette question angoissante, qui est sans doute la question de la plupart des croyants de ce temps, il faut se souvenir du contexte philosophique et théologique dans lequel Luther est placé. Sommes en plein nominalisme, c'est une théologie qui remonte à Guillaume de Cam et que Luther connaît à travers Gabriel Biel, l'auteur d'un collectorium, d'un manuel qui était utilisé à l'époque par les étudiants en théologie. Et alors, ce nominalisme ne peut, je dirais, qu'engendrer l'angoisse dans le croyant, parce que, d'une part, pour cette théologie, il faut essayer, l'homme doit se disposer à la grâce par une repentance parfaite, la contrition. Mais comment produire une repentance parfaite lorsqu'on est exigeant à l'égard de soi-même? Et puis d'autre part, cette théologie souligne la souveraineté de Dieu, Dieu qui ne considère comme méritoire que ce qu'il veut bien regarder comme tel. Et je pense que la situation du croyant de cette époque, ou la situation d'un Luther, c'est ainsi qu'il a vécu ce drame, il est écartelé parce que d'une part, il a trop conscience de sa miséreuse faiblesse, et de l'autre côté, il a cette conscience de la transcendance et de la grandeur de Dieu. Il est véritablement écartelé, je dirais, entre les deux pôles, si je puis dire, de cette théologie. Et alors, dans cette inquiétude qui est la sienne, Luther va buter sur un texte de l'Écriture qui a joué un rôle fondamental pour lui. C'est le texte de l'Épître aux Romains, chapitre 1. L'apôtre Paul déclare « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Alors, Luther bute sur ce texte parce que pour lui, la justice avait le sens d'une justice distributive, d'une justice punissante. Et son problème en lisant ce texte est le suivant. Comment est-il possible que dans l'Évangile, l'Évangile qui est, par définition, bonne nouvelle,
la vérité, oui.
Comment est-il possible, dans cet Évangile bonne nouvelle, d'entendre parler d'une justice punissante, d'une justice distributive? Et la découverte de Luther, c'est que la justice de Dieu n'est pas une justice punissante, mais qu'au contraire, la justice de Dieu, c'est la justice qu'il attribue gratuitement à celui qui croit en lui.
J'avais brûlé du désir de bien comprendre un terme employé dans l'Épître aux Romains au premier chapitre, là où il est dit « La justice de Dieu est révélée dans l'Évangile ». Car jusqu'alors j'y songeais en frémissant. Ce terme de justice de Dieu, je le haïssais. Car l'usage courant et l'emploi qu'en font habituellement tous les docteurs m'avaient enseigné à le comprendre au sens philosophique. J'entendais par là la justice formelle ou active, une qualité divine qui pousse Dieu à punir les pécheurs et les coupables. Malgré ma vie irréprochable de moine, je me sentais pécheur aux yeux de Dieu. Ma conscience était extrêmement inquiète. Et je n'avais aucune certitude que Dieu fût apaisé par mes satisfactions. Enfin, Dieu me prit en pitié. Pendant que je méditais jour et nuit, et que j'examinais l'enchaînement de ces mots « La justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, comme il est écrit « Le juste vivra par la foi », je commençais à comprendre que la justice de Dieu signifie ici la justice que Dieu donne et par laquelle le juste vit s'il a la foi. Le sens de la phrase est donc celui-ci. L'Évangile nous révèle la justice de Dieu, mais cette justice est la justice passive par laquelle Dieu, dans sa miséricorde, nous justifie au moyen de la foi. Aussitôt, je me sentis renaître, et il me sembla être entré par des portes largement ouvertes au paradis même.
Alors cette découverte, quand l'a située? Les historiens alors ne sont pas d'accord sur la date. On la situe entre 1514 et 1518, au fond, peu importe la date. Ce qu'il faut noter, c'est que Luther va, je dirais, poursuivre une évolution qui bientôt prendra un caractère dramatique. Luther va s'en prendre à ce que je nommerais le pélagianisme, ou disons le semi-pélagianisme de la théologie du Moyen-Âge finissant, c'est-à-dire une théologie qui estime que le salut est le fruit d'une collaboration entre le croyant et Dieu, alors que Luther va souligner la toute-puissance de la grâce et l'impossibilité de l'homme de se sauver lui-même.
Et la puissance de l'homme de se sauver ou de contribuer à se sauver face à Dieu est lié naturellement aussi à la puissance de l'Église qui aide l'homme à faire ce travail. Et autant on accordera à Dieu et à cette puissance, autant on enlèvera à l'Église, et pour être encore plus prosaïque, autant on enlèvera à ces fameuses pratiques quasiment superstitieuses contre lesquelles les réformateurs se sont élevés.
C'est évident. Pour le croyant moyen ou médiocre, disons, de cette période, le salut consistait à acquérir des mérites. Acquérir des mérites, il y avait toutes sortes de moyens d'acquérir des mérites. Alors, en faisant le bien, évidemment, en participant à des pèlerinages, en fréquentant les sanctuaires qui possédaient de nombreuses reliques, n'est-ce pas ? Et c'est ainsi que, je dirais, le croyant pouvait constituer son petit bagage de mérites, et petit bagage de mérites que Dieu pouvait prendre en considération et que Dieu pouvait couronner en donnant sa grâce. Voilà, j'exprime les choses un peu sommairement.
Alors, quels sont, Richard Stoffer, les événements proprement dits de la réforme luthérienne?
On situe, disons, le tournant réformateur en 1517, au moment de la publication des fameuses thèses, des 95 thèses sur les indulgences. Et dans ces thèses, Luther s'en prend évidemment à la vente des indulgences et souligne que toute vie chrétienne est, du commencement à la fin, repentance. Alors, à partir de 1517, les événements s'accélèrent. En 1520, Luther publie une série de grands écrits réformateurs à la noblesse chrétienne nationale, où il proclame le sacerdoce universel, un traité sur la captivité babylonienne de l'Église, dans lequel Luther estime que l'Église tient en esclavage les fidèles par le moyen des sacrements. Comme le peuple juif avait été en esclavage à Babylone, l'Église romaine tient les croyants en esclavage, puisque c'est elle qui confère les sacrements, instruments de salut. Et puis un troisième traité, le traité de la liberté chrétienne, dans lequel Luther formule le paradoxe, le chrétien est libre, et parce qu'il est libre, il est le serviteur de tous.
Alors, ces écrits font scandale, font beaucoup de bruit, et il y a toute une série de tentatives de conciliation de la part de Rome. On envoie à Luther des émissaires qui sont chargés de trouver des points de conciliation théologique avec lui, mais il résiste comme un beau diable, si j'ose dire.
Oui, et je dirais que ces émissaires et ces ambassadeurs sont en même temps des provocateurs, c'est-à-dire qu'au fond, ils amènent Luther à durcir sa position. Tous n'ont pas, je dirais, la taille et l'envergure de Cajetan, théologien de l'époque, sans doute le plus remarquable, qui était un thomiste consommé. Et en janvier 1521, Rome prononce l'anathème contre Luther et ses partisans, c'est la publication de la bulle « Decet Romanum Pontificem ». Voici donc Luther excommunié. Charles Quint ne peut se résoudre à voir la dissension s'installer dans l'Empire, et Charles Quint fait comparaître le moine Martin Luther le 17 et le 18 avril 1521 devant la diète impériale réunie à Worms et est invité à ce moment-là à rétracter ses erreurs. L'official de trêve lui dit
« Sa Majesté impériale exige de vous une réponse simple et droite. Elle demande si oui ou non tout ce qui est de vous comme étant conforme à la doctrine catholique et chrétienne, ou si vous êtes prêt à vous rétracter. » Luther répondit aussitôt, « Puisque votre majesté impériale et vos seigneuries me demandent une réponse nette, je vais vous la donner sans cornes et sans dents. Non, si l'on ne me convainc par les témoignages de l'Écriture ou par des raisons décisives, car je ne crois ni au pape ni au concile seul. » Puisqu'il est clair comme le jour qu'ils ont souvent erré et qu'ils se sont contredits. Je suis dominé par les saintes écritures que j'ai citées, et ma conscience est liée par la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il est dangereux d'agir contre sa propre conscience.
À quoi l'official réplique ? Abandonne ta conscience, frère Martin. La seule chose qui soit sans danger est de se soumettre à l'autorité établie.
Laissons là Luther, dont l'histoire est passionnante, mais longue et complexe. Le mouvement créé par lui s'étend et s'approfondit, gagne de nombreux états de l'Allemagne, jusqu'aux confins de l'Empire, jusqu'à Strasbourg, jusqu'à la Suisse, Bâle, Genève, et c'est là précisément que nous rencontrons le personnage de Jean Calvin. Cependant, Richard Stoffer, Calvin n'est pas genevois, il n'est pas suisse, il est français.
C'est un Picard, les Picards au XVIe siècle, en tout cas en mauvaise réputation. Et ce sont, paraît-il, des crânes durs. Il est né en 1509. Son père était l'homme d'affaires du chapitre et de l'évêque de Noyon. Et Calvin a bénéficié, dans sa jeunesse en tout cas, de protections ecclésiastiques. Il a vécu à l'ombre de la famille de Angeste. C'est un garçon extraordinairement brillant. Et dès l'âge de 14 ans, il est envoyé faire ses études à Paris, avec quelques membres de la famille du Angeste. Il fréquente ainsi le collège de la Marche et puis le collège Montaigu, qui est un des bastions de l'orthodoxie. Il faut souligner qu'au moment où Calvin arrive à Paris, on commence à parler de l'hérésie luthérienne. En 1523, le moine de Bûcher, en parenthèse, est assez frappant de voir que les moines augustins, et Luther avait été un moine augustin, je dirais les premiers martyrs.
C'est-à-dire que c'est une congrégation qui est censée être fondée sur une règle écrite par saint Augustin lui-même.
C'est ça,
mais
c'est
en tout cas, que cette règle soit d'Augustin ou non, la théologie de saint Augustin est particulièrement révérée dans cet ordre.
C'est évident, et donc ce n'est pas par hasard si de nombreux augustins, au fond, ont adhéré à la réforme. À l'époque encore où Calvin est à Paris, on peut assister à l'exécution de Pauvent, de Meaux. Bon, voilà, je dirais, tout un contexte qui...
C'était un temps où on mourait facilement.
Où l'on meurt très facilement, où l'on fait mourir très facilement.
Bah. Il suffit d'un mot en trop.
Oui, certainement.
Ou d'un mot à côté.
Certainement. Alors, après sa formation à Paris, ayant achevé une formation philosophique, Calvin va faire des études de droit. Alors, il faut signaler ici que son père, au départ, envisageait vraisemblablement pour lui des études de théologie. Mais le père est en brouille avec le chapitre, il aura des difficultés, il mourra du reste excommunié. Et Calvin, donc, va se diriger vers le droit. Il étudie à Orléans, où il est en contact avec un dénommé Vollmar, un Allemand, vraisemblablement quelque peu frotté de luthéranisme ou de luthérisme. Et puis, après Orléans, Calvin va poursuivre ses études à Bourges.
Mais pourquoi est-ce qu'on passait d'une ville comme ça à une autre pour faire ses études ?
Mais on y passait en raison du renom des professeurs. Et
au fond, la France était moins centralisée à cette époque-là.
Infiniment moins. Et dans ces universités brillait un certain nombre. Il y avait Pierre de l'Étoile, il y avait Alcia, des gens qui ont impressionné Calvin. Et Calvin va achever ses études de droit à Orléans vers 1532, titulaire d'une licence. Ce serait trop étroit de dire qu'il est juriste. Avec la formation qu'il a eue, il est évidemment très, très ouvert, je dirais, à toutes les requêtes de l'humanisme. Et il va fréquenter à Paris le Collège Royal, les cours donnés par les lecteurs royaux, ce qui va donner naissance au Collège de France. Il va suivre les cours de Vatable, un spécialiste de l'hébreu, et les cours de Danès, qui est un excellent helléniste, et il va publier à cette époque son premier ouvrage, qui n'est pas un ouvrage de théologie. Il va le publier du reste à compte d'auteur, mais l'ouvrage se vendra mal, un commentaire du De Clementia de Sénèque. Alors, ceci donc se situe aux environs de 1532. En 1533, un événement qui va faire sensation dans l'ère d'alors, c'est le discours du recteur Nicolas Cop. Nicolas Cop est médecin et il prononce un discours qui nous a été conservé, dans lequel il y a des réminiscences d'Erasme. Un discours qui, dans le contexte d'alors, apparaît comme une ouverture aux idées nouvelles, et l'on soupçonne Calvin d'avoir participé à la rédaction de ce discours.
Il a 24 ans à cette époque-là.
Oui. Il est jeune, c'est en 1509, il a 24 ans exactement. Il a 24 ans. Il est vraisemblable que Calvin a participé à l'élaboration de ce texte. Alors, après ce discours, il est plus prudent de se retirer, de quitter Paris. Il se réfugie en Angoulême. C'est vraisemblablement au cours de cet hiver que Calvin se convertit. Converti, il parle dans le texte latin d'une conversio subita. Conversion subie ou subite.
Mais à quoi ?
À la vérité de l'Évangile. À la vérité de l'Évangile. Il est arraché, je dirais, aux ténèbres papistiques et il découvre la lumière de l'Évangile.
Je lis ce texte de Calvin, qui est écrit naturellement dans le français du XVIe siècle, qui a des charmes, mais aussi pour nous modernes, quelques difficultés. Dès que j'étais jeune enfant, nous dit Calvin, mon père m'avait destiné à la théologie. Mais puis après, d'autant qu'il considérait que la science des lois communément enrichit ceux qui la suivent, cette espérance lui fit incontinent changer d'avis. Ainsi cela fut cause qu'on me retira de l'étude de philosophie et que je fus mis à apprendre les lois, auxquelles, combien que je m'efforçasse de m'employer fidèlement pour obéir à mon père, Dieu toutefois, par sa providence secrète, me fit finalement tourner bride d'un autre côté. Et premièrement, comme ainsi soit que je fusse si obstinément adonné aux superstitions de la papauté qu'il était bien malaisé qu'on me pût tirer de ce bourbier si profond, par une conversion subite ou subie, il dompta et rangea à docilité mon cœur, lequel, eu égard à l'âge, était par trop endurci en telle chose. Ayant donc reçu quelques goûts et connaissances de la vraie piété, je fus incontinent enflammé d'un si grand désir de profiter, qu'encore que je ne quittasse pas du tout les autres études, je m'y employais toutefois plus lâchement. Or, je fus tout ébahi que devant que l'an passa, tous ceux qui avaient quelque désir de la pure doctrine se rangeaient à moi pour apprendre, combien que je ne fisse que commencer moi-même.
Semble d'emblée que, je dirais, Calvin s'est mis, à enseigner, à proclamer la foi qu'il avait découverte.
Comme tous les grands hommes prophétiques et aussi un peu politiques, enfin disons, ayant un poids social, il a un rayonnement personnel très grand.
Extraordinaire. Et ça, c'est une des choses, je dirais, qui frappe l'historien, c'est que ce Calvin, qu'on considère volontiers comme un homme sec, a eu une influence considérable et a tissé au XVIe certainement un des plus impressionnants réseaux d'amitié qui ait jamais existé.
Mais là, ceci dit, il a encore 24-25 ans.
C'est ça. Mais je dirais qu'il est déjà en pleine possession de... Je serais tenté de dire qu'il a déjà tous les éléments de sa théologie, parce que, nous allons le voir, quelques années plus tard seulement, il va rédiger l'Institution de la religion chrétienne. Il faut tout de même situer un événement qui, dans sa vie, joue un rôle très important, qui constitue un tournant. Dans 1534... la fameuse affaire des placards, ces placards contre les importables, c'est-à-dire les insupportables, placards rédigés par un certain Marcourt, qui était pasteur à Neuchâtel, et qui sont affichés en France, à Paris, et jusqu'au château d'Amboise, sur la porte de la chambre à coucher du roi François Ier.
Alors ce geste est... Je sens personnellement visé. Alors.
Exactement. C'est une véritable provocation. Du reste, on s'est demandé quel était, au fond, le diable qui avait piqué les milieux réformés. Les raisons sont très mal connues, mais il est évident qu'après la publication et l'affichage des placards, Calvin doit quitter le royaume en toute hâte.
Pas seulement lui. Enfin,
et évidemment, tous les évangéliques aussi, doivent se mettre à l'abri. Et Calvin va s'installer à Bâle, où il va rédiger en une année l'institution de la religion chrétienne.
Alors attendez, oui. À Bâle, pourquoi? Parce que à Bâle, il y a déjà des réformés.
Eh bien, à Bâle, parce que Bâle, qui est aux confins, mais disons que c'est une des premières villes à la périphérie de l'Empire lorsqu'on quitte le territoire français. Et d'autre part, il faut le souligner, Bâle, à cette époque, un rayonnement considérable, c'est une cité d'imprimeurs, c'est une cité dans laquelle Erasme a élu domicile, une ville qui a un prestige considérable et qui est pour un intellectuel le lieu de refuge rêvé. Et je vous disais, au moment où la conversion de Calvin se fait, en 1534, il possède tous les éléments de sa théologie, puisque en 1535, il rédige l'Institution de la religion chrétienne et elle paraît en 1536. Pas. Donc, c'est un homme, je dirais, qui se fait d'un seul coup, si l'on peut dire.
Alors, cette institution de la religion chrétienne, c'est le grand livre de Calvin, parmi d'autres livres, mais enfin, c'est le grand livre qu'il a revu toute sa vie, qu'il a augmenté toute sa vie, et c'est une dogmatique complète.
Oui, c'est, à mon avis, je dirais, la dogmatique la plus élaborée, jamais sortie des rangs de la réforme du XVIe. C'est un ouvrage, je dirais, qui commence très modestement. Un petit ouvrage qui pouvait se glisser très facilement dans les ballots des colporteurs, qui pouvait se glisser dans une poche, qui comprend 6 chapitres au départ, et Calvin ne cessera de retravailler, d'augmenter cet ouvrage, et dans sa dernière édition, 1559-1560, l'ouvrage comprendra 80 chapitres. Après son séjour à Bâle, Calvin va faire une descente dans le nord de l'Italie, il va se rendre à la cour de René de France à Ferrare, donc. René de France qui était l'épouse d'Hercule d'Est. C'était une de ces personnalités royales ouvertes aux idées évangéliques. Et de Ferrare, il va retourner en France pour régler les affaires qu'il a laissées pendantes là-bas. Et son intention, c'est évidemment de quitter le royaume et de s'installer à Strasbourg. Strasbourg où il a envie de travailler comme un érudit de l'époque. Et au moment où il est en route pour Strasbourg, obligé de faire le détour par Genève en raison de la guerre qui oppose François Ier et Charles Quint, donc au moment de ce voyage en route pour Strasbourg, Calvin est retenu à Genève dans des conditions assez étonnantes. Il est reconnu dans une auberge de la ville et vient à lui le réformateur Farel, sous la conduite duquel la ville de Genève avait embrassé la réforme, et Farel le somme de rester à Genève pour y poursuivre avec lui l'œuvre de purification qui vient d'être commencée. Et nous lirons ici le texte où Calvin raconte cet événement. Maître Guillaume Farel me retint à Genève, non pas tant par conseil et exhortation que par une adjuration épouvantable, comme si Dieu eût d'en haut étendu sa main sur moi pour m'arrêter. Pour ce que, pour aller à Strasbourg, où je voulais lors me retirer, le plus droit chemin était fermé par les guerres, j'avais délibéré de passer par ici légèrement, sans arrêter plus d'une nuit en la ville. Or, un peu auparavant, la papauté en avait été chassée par le moyen de ce bon personnage que j'ai nommé de Maître Pierre Viret. Le bon personnage, c'est Guillaume Farel. Mais les choses n'étaient point encore dressées en leur forme. Il y avait des divisions et des factions mauvaises et dangereuses entre ceux de la ville. A donc un personnage, lequel maintenant s'est vilainement révolté et est retourné vers les papistes, me découvrit et me fit connaître aux autres. Sur cela, Farel, comme il brûlait d'un merveilleux zèle d'avancer l'Évangile, fit incontinent tous ses efforts pour me retenir. Et après avoir entendu que j'avais quelques études particulières auxquelles je me voulais réserver libre, quand il vit qu'il ne gagnait rien par prière, il vint jusqu'à une imprécation, qu'il plût à Dieu de maudire mon repos et la tranquillité d'études que je cherchais, si en une si grande nécessité je me retirais et refusais de donner secours et aide. Lequel mot m'épouvanta et m'ébranla tellement que je me désistai du voyage que j'avais entrepris. Toutefois, sentant ma honte et ma timidité, je ne voulus point m'obliger à exercer quelque certaine charge. C'est-à-dire que Calvin accepte de rester, ne veut pas assumer la charge de pasteur, mais il va commencer son travail à Genève avec la fonction, avec la charge de lecteur en l'écriture. Dans ces cités nouvellement gagnées à la Réforme, qui sont, je dirais, de véritables laboratoires herméneutiques, la Bible est commentée à longueur de journée.
Devant le public.
Devant le public, devant les fidèles.
Et Calvin, les réformateurs sont des grands lecteurs de saint Paul. Or, saint Paul a fait toute une théologie de la prédication.
Exactement. Exactement, et je crois qu'il faut souligner l'importance de la prédication, de ce commentaire vivant et perpétuel de l'Écriture. Et Calvin doit être rétribué par le magistrat. Au bout de plusieurs mois, son salaire ne lui a pas encore été versé. Farel en fait la remarque aux autorités municipales. Et Calvin est si mal connu à l'époque que dans les textes de l'époque, il est désigné par l'appellation illégalus, ce français. L'appellation est extrêmement intéressante parce que Calvin sera toujours à Genève et jusqu'à la fin de sa carrière véritablement le corps étranger. Illégalus, ce français qui
oui,
est parmi.
Pour les Français, il passe pour le Genevois, au contraire.
Oui, voilà. Il est vraiment pour les Genevois, il est vraiment l'étranger, il est vraiment le français en tant que tel.
Alors, ceci dit, il va y rester longtemps.
Eh bien, Il va commencer donc ses fonctions de lecteur. Très rapidement, il est embarqué dans des charges qui sont des charges pastorales. Je souligne au passage que Calvin n'a jamais été ordonné au ministère pastoral, qu'il n'avait jamais été du reste ordonné au sacerdoce, n'est-ce pas ? Et après 2 ans d'activité, en 1538, il est sommé de quitter la ville dans les 3 jours, en même temps que ses 2 collègues, Guillaume Farel et Corot.
Je fais encore une remarque sur ces dates. Il a à peine 30 ans, alors c'est quand même
l'époque
où on vit vite. Enfin...
Exactement. Et alors, il y a chez Calvin, il faut bien le dire, une précocité étonnante. Précocité étonnante. Je pense qu'à une époque où l'on est extrêmement précoce, il y a d'autres exemples de cette précocité. C'est par exemple celle de Bullinger, le bon, est professeur d'écriture sainte, Sainte-Capelle, et qui a une culture patristique extraordinaire. Mais Calvin est un des beaux exemples de cette précocité. Alors, il quitte Genève en 1538. Pourquoi ? Eh bien, parce que Calvin estimait que ne devait être accepté à la scène, à la communion, que les citoyens genevois qui avaient accepté la confession de foi que Calvin avait élaborée, dans laquelle était proclamée l'adhésion de la ville à l'évangile nouvellement découvert. Et puis, d'autre part, les genevois ont besoin d'un allié puissant, messieurs de Berne. Les genevois ont introduit, sans consulter les pasteurs, certains usages liturgiques. Calvin réprouve, et dans ce conflit, comme je le disais, de quitter la ville dans les 3 jours. Alors, que va-t-il faire ? Eh bien, va-t-il retrouver ses chères études ? Eh bien, de nouveau, je dirais, le même mécanisme qui avait opéré à l'adjuration épouvantable de Guillaume Farel va succéder une de Bucer, le réformateur de Strasbourg. Et Bucer l'invite à venir à Strasbourg, et Calvin va y séjourner de 1538 à 1541, y assumant une double fonction. Il y a à Strasbourg une église de réfugiés français, de gens qui sont gagnés à l'évangile et qui ont dû fuir le royaume. Calvin va être leur pasteur, et d'autre part, il pourra, je dirais, développer les dons d'enseignants qui sont à enseigner du Nouveau Testament à la Haute École de Strasbourg.
Ceci dit, Richard Stoffer, Calvin ne va pas rester à Strasbourg, nous le savons bien, puisque son nom est attaché à la ville de Genève. Alors comment y revient-il ?
Eh bien, il y revient contre son gré. Il y revient contre son gré.
Évidemment, il n'a rien fait de
lui-même. Non, il n'a rien fait de lui-même. Il a toujours été contraint par ce qu'il considérait comme une contrainte imposée par la Providence. Après son départ de Genève, les choses vont mal. Il y a une offensive catholique d'une certaine ampleur. Il faut signaler ici le geste.
On n'est pas encore aux guerres de religion, proprement dit.
Non, pas du tout. Mais le cardinal Sadolet, qui était évêque de Carpentras, et qui est un homme ouvert à l'humanisme, disons d'un réformisme, d'une réforme modérée, le cardinal Sadolet écrit aux Genevois pour leur dire de rentrer dans le giron de l'Église. Alors il y a là une lettre à laquelle il faut répondre. Personne à Genève n'est capable de répondre. Et finalement, le magistrat genevois qui avait expulsé Calvin se voit contraint de demander à Calvin la réponse tout de même. Permettra aux Genevois de faire face à cette provocation romaine. Calvin donc rédige cette réponse à Sadolet, c'est du reste un très beau texte. Les choses allant mal, je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs ambassades lui sont envoyées à Strasbourg et on le supplie, en quelque sorte, de revenir à Genève pour assumer l'œuvre qu'il avait commencée. Et Calvin y revient en disant qu'il aurait préféré 100 autres morts à cette croix. Il revient contre son gré. Alors, une chose qui est frappante, c'est, je dirais, la grandeur avec laquelle Calvin reprend cette charge. Il déclare lui-même, nous avons conservé la lettre, qu'il revient à Genève et qu'il reprend sa prédication à l'endroit où il avait été interrompu. Je souligne ici que les réformateurs de type calvino-zwinglien pratique ce qu'on appelle la lectio continua, c'est-à-dire qu'il commente l'écriture ils ouvrent l'écriture, ils choisissent un livre et ils le commentent
du premier au dernier verset.
Voilà, du premier au dernier verset. Et Calvin reprend sa prédication à l'endroit où il l'avait arrêté, sans faire aucune allusion aux événements qui avaient amené son départ.
Et vous avez dit, Richard Stoffer, tout à l'heure, qu'il était picard et qu'il était têtu.
Oui, mais il avait, je pense, un sens de l'Église qui faisait que, à l'occasion, pas toujours, il était capable d'oublier ses colères et il était capable de mettre en veilleuse le tempérament un peu belliqueux qui était le sien. Calvin sera toujours à Genève en étranger. La bourgeoisie ne lui fut accordée qu'en 1559.
Une droite citée,
oui. Oui, 5 ans avant sa mort. Et c'est dire que le milieu ne lui est pas d'emblée favorable. Nous verrons que très rapidement, au fond, va se manifester une hostilité parce que, tambour battant, Calvin va se mettre à l'œuvre et il va organiser, réorganiser cette église en faisant 3 choses. Tout d'abord, en lui donnant des structures. En lui donnant des structures, il va réorganiser cette église et en 1541, il publie les ordonnances ecclésiastiques. On estime qu'à la veille de la Réforme, il y avait à Genève quelques 400 clercs religieux et séculiers. Évidemment, tout cela va disparaître et on a pu parler en ce sens-là d'une révolution parce que à ces 400 clercs religieux et séculiers, vont succéder quelques 12 ou 15 pasteurs. Donc, une réduction des effectifs absolument considérable. Alors, ces ordonnances ecclésiastiques, elles vont mettre en place 4 ministères différents. Le ministère du pasteur, le pasteur qui est appelé à prêcher l'Évangile, à commenter l'Écriture et à administrer les sacrements que sont le baptême et la scène. La Réforme en retient 2. À côté de ce ministère du pasteur, celui du docteur, le 3e ministère, celui de l'ancien, un ministère que je qualifierais volontiers de laïque. L'ancien, c'est celui qui est chargé de veiller sur le respect de la discipline, chargé de veiller sur les bonnes mœurs, et qui siège avec les pasteurs au sein d'un consistoire qui veillera sur la bonne marche de l'Église. Et un 4e ministère, celui du diacre, le diacre qui est administrateur des biens des pauvres et qui est infirmier aussi. Donc, 4 ministères. Ces 4 ministères, Calvin n'a dans ce domaine, je pense, rien inventé. Il n'a fait que mettre en forme des vues que Bucer avait déjà pressenties avant. À Strasbourg. C'est pour ça que le séjour à Strasbourg a été déterminant pour... À Strasbourg, il a véritablement, je dirais, enrichi et...
Richard Stoffer, les rapports de cette église ainsi organisée avec l'État, avec la ville de Genève.
Alors, des rapports qui sont extrêmement complexes et des rapports qui vont susciter des discussions durant bien des années jusqu'à la fin du ministère de Calvin. Parce que pour Calvin, l'ancien est un ministre laïque. Mais pour le pouvoir temporel, pour le magistrat, l'ancien est le commis de la seigneurie. Les ordonnances ecclésiastiques, et Calvin a dû supporter cette ambiguïté, il est dit l'ancien ou commis de la seigneurie. C'est-à-dire que Calvin voit dans cet ancien un homme qui a une vocation particulière au sein de l'Église, alors que le pouvoir temporel voit dans cet ancien un représentant, parce que l'ancien, il émane d'un des conseils de la ville.
C'est donc le représentant de l'autorité politique dans le consistoire de l'église.
Dans le consistoire, exactement. Exactement. Alors, vous savez que Genève brille en un certain nombre de secteurs, chaque secteur étant placé. Et c'est ainsi que le consistoire va faire régner à Genève une discipline qui ne sera pas toujours facile à supporter, ça c'est bien évident.
Qui se marque comment alors? Parce que l'Église a un peu disposé du bras séculier.
Alors, l'Église veut avoir le pouvoir d'excommunication. Je dois noter ici que le magistrat entendait excommuniquer. Long conflit entre Calvin et le magistrat, parce que Calvin estime que l'excommunication est du seul ressort de l'Église, mais l'Église peut excommuniquer. Et c'est une menace extrêmement forte. Mais outre l'excommunication, le consistoire peut infliger toutes sortes de peines. Par exemple, le Genevois qui se appelle son chien par dérision Calvin, il est condamné par le consistoire. Chemise à travers la ville, n'est-ce pas ? Qui est encore peu acclimaté dans cette église qui veut vivre de la seule parole de Dieu et qui récite des prières latines sur la tombe de son mari est condamné également par le consistoire. Ça n'était pas toujours commode de vivre à l'ombre du consistoire, n'est-ce pas ? Quand vous êtes excommunié, vous êtes retranché de la scène, bien sûr, de l'Eucharistie, oui. De la communion, mais invité néanmoins à participer au culte pour entendre la parole de Dieu,
oui.
Étant bien entendu que la parole de Dieu est le moyen par lequel vous serez converti, arraché à vos erreurs, et par lequel vous pourrez revenir à une vue meilleure et nouvelle. Pas.
Alors concrètement, donc, ça se traduit comment ?
Assistance au culte, mais non participation à la table de communion.
Mais sans conséquence sur la vie civile.
Écoutez, être exclu de la table sainte, c'était tout de même. Si c'est celui d'un certain Bertelier qui était le fils d'un patriote genevois, et ce Bertelier bénéficie de très nombreux appuis au sein du gouvernement, pour employer un terme moderne. Et le magistrat qui veut tâter la force de résistance de Calvin et des pasteurs incite Bertelier à se présenter au temple et à se présenter à la table sainte un jour où la communion est distribuée. Et Calvin a repéré le personnage dans l'auditoire. Calvin a bien senti, au fond, l'espèce de provocation ou du piège qui lui est tendu par le magistrat. Et Calvin, alors, de s'indigner du haut de la chair en disant que, aussi vrai que Dieu l'a appelé, il n'acceptera pas ce chien à la table du Seigneur. Il est évident que Bertelier n'insiste pas, n'est-ce pas ? Bertelier n'insiste pas. Donc, vous savez, l'excommunication, c'était une mesure redoutable.
Calvin parlait, dites-vous, du haut de la chair. Comment étaient habillés les hommes d'église à cette époque ?
Alors, ils portent la robe que nous connaissons chez les avocats aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est tout simplement la robe doctorale. La robe doctorale, donc, c'est une grande... avec ce rabat blanc, qui apparaît quelque peu sinistre aujourd'hui, mais c'est le vêtement des docteurs de l'époque. Et Calvin, n'est-ce pas ? À la réputation de faire bref quand il prêche. Et qu'est-ce que ça signifie pour l'époque ? Ça signifie qu'il prêche durant une heure à peu près. Et ceux qui prêchent longtemps prêchent une heure et demie ou une heure trois quarts. Et alors, comment s'imaginer le débit de Calvin ? Il devait être quelque peu asthmatique. C'était sans doute pas ce qu'on appelle aujourd'hui un brillant orateur. Mais je pense qu'il y a une telle force dans son discours. C'est de puissance contenue que, je dirais, cette prédication ne pouvait que toucher ou bouleverser. Il suffit de lire aujourd'hui ces textes, parce que nous avons conservé plus de 1200 prédications de Calvin. Il ne les écrivait pas. C'était impossible, puisqu'il prêchait près de 300 fois par an. Deux fois par dimanche, et tous les jours de la semaine, chaque seconde semaine du mois. Mais la compagnie des pasteurs de Genève, qui avait compris, je dirais, la puissance de cette prédication, avait nommé un certain nombre de secrétaires, qui enregistrait cette prédication avec un système de tachygraphie, comme on disait, de sténographie, Ces textes étaient mis au net ensuite, publiés, et ce sont les best-sellers de l'époque. Et Calvin avait abandonné ses droits d'auteur à la Caisse des pauvres. Et c'était une affaire si fructueuse qu'il y a eu au XVIe siècle toute une série d'éditions pirates. On s'arrachait les prédications de Calvin. Alors c'est une prédication, je dirais, qui est extraordinaire, qui vous prend aux entrailles. Calvin souhaitait la célébration de la scène, comme on dit en milieu protestant, la célébration de l'Eucharistie, il la souhaitait tous les dimanches. Mais, disait-il, souvenons-nous du reste qu'à cette époque, la communion dans l'église romaine, qui était une communion fréquente, on faisait ses Pâques, mais Calvin souhaite la célébration de la scène tous les dimanches, mais il estime que dans l'état actuel des choses, en raison de la superstition qui règne, il est impossible de l'introduire tous les dimanches. Alors il la souhaite au moins une fois par mois, en attendant que les choses mûrissent. Et ici, Calvin se heurte à la résistance du magistrat, et c'est la raison pour laquelle on devra se contenter à Genève, et c'est une coutume qui va durer et perdurer jusqu'à notre époque, jusqu'au renouveau liturgique de ces dernières décennies, on ne célébrera la Sainte Cène que 4 fois par an. Mais c'est contre la volonté de Calvin, n'est-ce pas ? Il y a une liturgie qui est évidemment simplifiée de manière considérable par Calvin, mais il y a une liturgie dans laquelle on retrouve certains des éléments de la messe, une liturgie, et je vous dis, dans le culte calvinien idéal, la célébration du sacrement de l'Eucharistie, indéniablement, n'est-ce pas ? C'est pas simplement un culte de la parole. Et je dirais qu'un culte réformé aujourd'hui, qui voudrait être fidèle aux intentions de Calvin, serait un culte dominical qui, outre la prédication, comprendrait la célébration de la scène.
Alors vous disiez, Richard Stoffer, que Calvin à Genève avait fait plusieurs, dans son œuvre réformatrice, plusieurs grandes choses. Et d'abord, la réorganisation de l'Église.
C'est ça, les ordonnances ecclésiastiques. Les ordonnances ecclésiastiques, alors après cela, il comprend une chose, c'est qu'une Église réformée doit avoir un catéchisme. Et il avait fait en 1537 un premier catéchisme. Il estime que ce catéchisme est trop difficile. Et avec un sens pédagogique très sûr, il va en 1542 rédiger un catéchisme, le catéchisme de Genève, sous forme de questions et de réponses. La question du maître ou du pasteur et la réponse de l'enfant ou du catéchumène. Et ce catéchisme aura destinée extraordinaire. Il sera évidemment traduit dans d'innombrables langues. Et à côté de cet effort dans le domaine du catéchisme, Calvin élabore une nouvelle liturgie. Cette liturgie s'appelle la forme des prières et chants ecclésiastiques. Calvin s'y inspire très largement de la liturgie strasbourgeoise, mais il simplifie, il élague les choses.
Et par rapport aux liturgies luthériennes,
alors c'est évidemment beaucoup plus dépouillé. Le service luthérien, je dirais, comprend en allemand tous les éléments de la messe. Il y a dans la réforme calvinienne, à cet égard, un radicalisme par rapport au luthéranisme, indéniablement.
Comment expliquez-vous cette purification un peu austère ? Ça tient au caractère des Genevois ou au caractère de Calvin ?
Je pense que ça tient au caractère de Calvin. Oui, oui. Calvin est davantage tourné vers l'avenir. Luther est dans ce domaine et dans beaucoup d'autres, beaucoup plus, je ne dirais pas prisonnier, mais beaucoup plus tributaire de la tradition.
Et puis Luther avait été moine.
Luther avait été moine, certainement, oui.
Oui, c'est une différence.
C'est vrai. Oui. Oui.
Calvin, qui est un juriste.
Oui, mais qui a tout de même, bon, il a tout de même été tonsuré dans sa jeunesse, il a, bon, c'est évident, il n'a jamais été ordonné. Oui. Mais ça explique peut-être les choses.
Écoutons, interprété par la chorale Stéphane Gaillard, un psaume de Claude Goudimel, ce grand compositeur français du XVIe siècle, qui a écrit
pour Calvin et les églises calviniennes une grande partie de ce qu'on a appelé le psautier huguenot, principale musique de culte dans ces églises. La nouveauté consiste notamment en ce que le texte des psaumes est chanté en français.
Calvin, en homme de son temps, pensait que la réforme devait venir de la tête, et pensait en particulier que la réforme n'avait quelque chance de s'imposer en France que si elle venait du pouvoir royal. Si bien que Calvin a freiné durant des années la constitution, au fond, d'églises réformées. Et c'est assez tard, je dirais qu'il va donner le feu vert.
Il espérait convertir le roi ?
Ben, François Ier avait tout de même donné bien des gages de sympathie à l'humanisme chrétien. Après l'affaire des placards, c'est fini. Mais Calvin a conservé des espérances, certainement après cette date de 1534. Et c'est donc assez tard que Calvin va donner le feu vert à ses communautés. Et c'est à partir des années 1550-1555 que l'on verra ce qu'on appelle des églises dressées par opposition aux églises plantées. Les églises plantées, dans ce langage, sont les églises où il y a une prédication de l'Évangile, mais des communautés informelles. Et l'église dressée, il y a là une distinction importante pour Calvin qui aime les structures. L'église dressée, c'est la communauté qui a un pasteur et un consistoire.
Mais attendez, pourquoi était-il nécessaire que les églises aient le feu vert de Calvin, enfin, puisqu'il n'avait pas de pouvoir temporel sur elles? C'est encore une fois le rayonnement de
sa rayonnement, pensée. C'est le rayonnement et le fait...
Puis c'est le grand réformateur de langue française.
Bien sûr, et le fait que les animateurs de ces communautés de base, comme on les appellerait aujourd'hui, au fond, ces premiers prédicateurs, sont formés à l'Académie de Lausanne, sont formés dans cette académie qui a été créée par messieurs de Berne. Bon, à partir de 1559, Calvin ouvrira l'Académie de Genève, qui sera une pépinière extraordinaire de jeunes pasteurs. Mais enfin, Calvin jouit d'une autorité considérable. Il est l'homme dont la parole est déterminante.
Si Calvin a une telle poigne, une telle autorité, il n'a pas dû avoir que des amis et que des collaborateurs et que des aides.
Oui, alors vous posez là une question tout à fait pertinente. Calvin estimera qu'il a de nombreux ennemis à combattre. Tout d'abord, les ennemis de l'intérieur, comme il les appelle parfois. Et ces ennemis de l'intérieur, ce sont des gens qui se recrutent parmi certains de ses premiers partisans, des notables de la ville, mais qui ont découvert une chose, c'est que Calvin ne faisait pas exception de personne et que ces gens-là devaient se soumettre à la discipline ecclésiastique comme les autres. On les a appelés, parfois ces vieux Genevois, on les a appelés des libertins. Et Calvin devra les combattre dans les années 46 à 48. Il y a un combat très dur. Il y a même des émeutes à Genève. Calvin a l'impression qu'on veut l'arquebuser, qu'on veut le descendre. Et puis, à côté de ses ennemis intérieurs, il a les ennemis de l'extérieur. Les ennemis de l'extérieur, d'abord les hérétiques de tout poil. Bon, Michel Servet, qui s'aventure à Genève. Après avoir été condamné...
Attendez, parce que, oui. Tout en étant déclaré hérétique par l'Église catholique, Calvin et les autres réformateurs ont aussi leurs hérétiques.
Ah, bien sûr, bien sûr. La réforme a ses hérétiques.
Ça ne les rend pas tolérants à l'égard de...
Absolument pas. Je crois que la tolérance est une denrée très rare au XVIe siècle. Comme le père Leclerc l'a montré dans sa très belle histoire de la tolérance, elle est très peu répandue.
Non, c'est une invention du XVIIIe siècle, finalement.
Oui, il y a tout de même au XVIe, on peut mentionner, je dirais, comme un précurseur de la tolérance, Sébastien Castellion, mais qui précisément ne pourra pas exercer des fonctions pastorales à Genève, qui aura des démêlés avec Calvin et qui terminera sa carrière à Bâle. Alors, les hérétiques, eh bien, il y a Michel Servet, qui met en question le dogme trinitaire, auquel Calvin est très attaché. Et Michel Servet commet l'imprudence de venir à Genève. Et vous connaissez cette douloureuse histoire. Bon, Michel Servet sera condamné par le magistrat, mais après une accusation de Calvin. Calvin porte plainte contre l'énergumène qui arrive ainsi dans cette cité qui veut vivre sous le contrôle de la seule parole de Dieu. Et puis...
Attendez, alors Servet, il meurt alors.
Alors Servet meurt sur le bûcher, il est exécuté à Champel, donc en 1553. C'est là évidemment une tâche pour la réforme calvinienne. Faut-il ajouter qu'au XVIe, hélas...
C'était une histoire assez banale.
Oui, et même les cités qui avaient la réputation d'être plus tolérantes, bon, Bâle, par exemple, qui était très marqué par l'humanisme, Bâle n'hésitera pas, durant les années 1530-1531, à noyer une vingtaine ou une trentaine d'anabaptistes. À Zurich aussi, les anabaptistes seront punis par l'eau, puisque, ayant péché par l'eau, ils refusent le baptême des enfants, ils seront punis par l'eau, on les noie dans la limate, ou dans le lac, n'est-ce pas ? Alors, alors, à côté de cela, bon, il y a les bûchers du côté catholique. Je crois que, de part et d'autre, on peut s'adresser des reproches dans ce domaine-là. Alors, outre l'affaire Servet, il y a les démêlés de Calvin avec les ultra-luthériens. Et puis, évidemment, une polémique incessante avec les papistes, comme on les appelle. Calvin ne les appelle pas les catholiques, puisque Calvin revendique la catholicité. Ce sont les papistes qui sont des schismatiques. Ce n'est pas la réforme qui est schismatique, puisqu'elle entend être fidèle à l'Église des premiers siècles. Alors, une polémique incessante, violente, parce que il est évident que les mots échangés de part et d'autre sont très durs. Et pourquoi ne pas le dire ? On échange les injures au même titre que les arguments théologiques. Cette polémique est très peu édifiante, ça, c'est évident. Alors, voilà, il y a toute cette polémique, mais ce que je voudrais noter, et ceci me paraît extrêmement important, c'est que si l'on voit là un Calvin redoutable, un Calvin querelleur, et là on découvre le Picard, hein, indéniablement. Et Calvin a été à côté de cela et il s'est voulu le rassembleur de la chrétienté réformée. Il s'est voulu l'organisateur de ce que j'appellerais la catholicité évangélique. Alors Calvin va conclure en 1549 avec Bullinger. Donc quelque peu barbare, Bullinger, qui est le successeur de Zwingli à Zurich, il va conclure avec ce théologien remarquable un accord, l'accord de Zurich, qui met fin au contentieux que pouvaient avoir Zwinglien et Calvinien dans le domaine de l'Eucharistie. Alors c'est une première étape. Et Calvin essaye ensuite de jeter des ponts du côté de l'Allemagne luthérienne. Il envoie toute une série d'ambassades auprès des luthériens allemands. Et il envoie des ambassadeurs de grande classe. Il envoie Théodore de Bèze et son ami Guillaume Farel, qui multiplie les avances auprès des théologiens allemands. Et puis, autre chose, ceci est moins connu, Calvin va entretenir toute une correspondance avec le duc de Somerset, le protecteur d'Angleterre et le jeune roi Édouard VI. Et Calvin va être, durant les années 1548 à 1551, il va être l'inspirateur de l'Église d'Angleterre. Avec, je dirais, une largeur de vue qui nous surprend, Calvin ne met pas du tout en question le régime épiscopal. Il admet les évêques. Il ne demande qu'une chose, c'est que les évêques prêchent la parole de Dieu et soient soumis à l'Évangile.
Et ce... dégage de l'autorité du pape.
Je dirais que dans cette correspondance, Calvin parle de la prédication de l'évangile. Remarquez...
La séparation avec le pape, elle est déjà faite.
Elle est déjà faite.
Grâce au roi.
Exactement. Mais alors, il ne s'adresse pas seulement à l'Église d'Angleterre, il s'adresse aussi à Sigismond Auguste, roi de Pologne. Vous savez que la Pologne, à cette époque, a été travaillée par le mouvement évangélique. la réforme, il comptait de nombreux adhérents. Et à Sigismond Auguste, Calvin déclare que l'épiscopat est légitime, qu'on peut même admettre l'existence d'un archevêque, d'un primat de Pologne, à condition toujours que ce personnage soit serviteur de la parole de Dieu. Il avait dénoncé deux dangers qui avaient menacé les premières communautés évangéliques en France. D'une part, le nicodémisme, et d'autre part, le libertinisme. Peut-être pas inutile de s'arrêter à l'un et l'autre de ces termes. Le nicodémisme, Calvin qui forge ce terme, il désigne du nom de nicodémite les gens qui, semblables aux pharisiens Nicodème, qui vient trouver Jésus de nuit pour ne pas se compromettre. Il appelle donc nicodémite les gens qui, en France, dans la France catholique, sont acquis aux idées évangéliques et continuent de fréquenter la messe. Donc des gens qui ne veulent pas se compromettre. Ceux que Calvin appellera aussi des moyenneurs, des nageurs entre deux eaux. Il a des propos extrêmement violents à l'égard de ces gens-là. Alors il part en guerre contre ces nicodémites.
C'est l'Apocalypse qui vomit les tièdes.
Voilà. Voilà, voilà, il a horreur de ces gens-là. Et il ne leur laisse d'autre choix que celui-ci, ou témoigner leur foi dans le royaume, au péril de leur vie, ou se réfugier dans une cité ou dans un pays acquis à l'Évangile. Un choix dramatique,
c'est
dur, oui. impitoyable. Puis alors, il dénonce aussi le libertinisme. Le libertinisme, bon, une secte, au fond, finalement, assez mal connue, mais qui était, et ceci était dangereux, protégée par Marguerite de Navarre, des gens qui étaient tentés, peut-être, de faire place à une certaine illumination du croyant, et Calvin réagit aussi très vivement contre ces gens-là.
Comment, Richard Stoffer, se termine cette vie de combat et d'écriture de Jean Calvin ?
La chose frappante, bouleversante même, c'est que ce personnage, je dirais, va mourir avec une espèce de sérénité tout d'abord, mais aussi avec une espèce de méthode. Il va mourir méthodiquement comme il a vécu, c'est-à-dire que, sentant ses forces décliner, il se fait porter une dernière fois en l'église de Saint-Pierre. Et on le hisse dans la chair. Et il s'adresse une dernière fois à cet auditoire paroissial auquel il avait prêché si souvent. Puis ensuite, il prend congé de ses amis de la compagnie des pasteurs.
Testament et dernière volonté de Maître Jean Calvin. Au nom de Dieu, à tous soit notoire et manifeste, comme ainsi soit que l'an 1564 est le 25e jour du mois d'avril, moi, Pierre Chenelas, citoyen et notaire juré de Genève, ai été appelé par le respectable Jean Calvin, ministre de la parole de Dieu en l'église de Genève et bourgeois du dit Genève, étant malade et indisposé de son corps tant seulement. Et celui m'a déclaré vouloir faire son testament et déclaration de sa dernière volonté, me priant de l'écrire selon qu'il serait par lui dicté et prononcé. Ce qu'à sa dite requête j'ai fait, et l'ai écrit sous lui, et selon qu'il me l'a dicté et prononcé de mot à mot, sans y rien omettre ni ajouter, en la forme qui s'ensuit.
Au nom de Dieu, je, Jean Calvin,
ministre de la parole de Dieu en l'église de Genève, me sentant tellement abattu de diverses maladies que je ne puis autrement penser sinon que Dieu me veut retirer en bref de ce monde, y avisé de faire y coucher par écrit mon testament et déclaration de ma dernière volonté en la forme qui s'ensuit. C'est en premier lieu que je rends grâce à Dieu de ce que, non seulement, il a eu pitié de moi, sa pauvre créature, pour me retirer de l'abîme de l'idolâtrie où j'étais plongé, pour m'attirer à la clarté de son évangile et me faire participant de la doctrine de salut de laquelle j'étais par trop indigne, et que, continuant sa miséricorde, il m'a supporté en tant de vices et pauvretés qui méritaient bien que je fusse rejeté 100 000 fois de lui. Mais qui plus est, il a étendu vers moi sa merci jusque-là de se servir de moi et de mon labeur pour porter et annoncer la vérité de son évangile. Je proteste que j'ai tâché, selon la mesure de grâce qu'il m'avait donnée, d'enseigner purement sa parole, tant en sermon que par écrit, et d'exposer fidèlement l'Écriture sainte. Et même quand toutes les disputes que j'ai eues contre les ennemis de vérité, je n'ai point usé de cautèle ni sophisterie, mais j'ai procédé rondement à maintenir sa querelle. Mais hélas, le vouloir que j'ai eu, et le zèle, s'il le faut ainsi appeler, a été si froid et si lâche que je me sens bien redevable en tout et partout, et que s'il n'était sa bonté infinie, toute l'affection que j'ai eue ne serait que fumée. Alors, au moment où Calvin meurt, il laisse une œuvre considérable. Cette œuvre a été éditée au XIXe siècle par 3 théologiens strasbourgeois, les Opera Omnia, qui comportent 59 gros volumes et qui, malgré leur titre, ne contiennent pas l'œuvre complète de Calvin, puisque ne figure pas dans ces Opera Omnia de très nombreux sermons qui sont actuellement en cours de publication. Je souligne que parmi ces 52 volumes, l'institution de la religion chrétienne ne constitue qu'une infime partie. Il y a à côté de cette institution d'innombrables traités, des commentaires bibliques, Calvin a commenté presque tous les livres de l'Écriture sainte, des sermons, j'ai dit Calvin prêchait 286 fois par an, selon l'estimation de Théodore de Bèze, et puis une correspondance considérable. Donc, dans un siècle qui est infiniment fécond, Calvin laisse à côté de l'œuvre de Luther une œuvre également impressionnante.
Richard Stauffer, nous avons donc parlé de la vie de Calvin, nous avons évoqué son œuvre. Il nous faut voir maintenant, en rentrant plus à l'intérieur, sa théologie, sa pensée. Alors comment peut-on la caractériser? Nous avons parlé de la rigueur sur le plan pratique, sur le plan moral, même sur le plan politique, et sur le plan psychologique aussi de Calvin. Cette rigueur a son correspondant sur le plan théologique, bien que ce ne soit pas un correspondant exact, mais il y a des harmoniques, disons, avec la doctrine de la prédestination et le refus que l'homme puisse se sauver lui-même. Et c'est ce qu'on résume souvent sous le titre « Soli Deo Gloria », la gloire revient à Dieu seul et non pas à l'homme. Alors qu'en est-il, et est-ce que cette image traditionnelle que l'on a de la théologie de Calvin est exacte?
Oui, alors là vous posez une question extrêmement importante. Il est indéniable que Calvin est le théologien du « Soli Deo Gloria ». Mais j'ajouterai immédiatement ceci, c'est que cet aspect n'est pas exclusif. Calvin, théologien du Soli Deo Gloria, c'est le Calvin qui a été mis en lumière par toute la recherche théologique du XIXe siècle. On a montré que Calvin soulignait la transcendance de Dieu, exaltait la toute-puissance, la souveraineté, la magnificence de Dieu. Et tout cela est indéniable. Moi-même, j'ai consacré ma thèse de doctorat en théologie à la doctrine du Dieu créateur chez Calvin. Il y a là un aspect extrêmement important et que peut-être la théologie dialectique inspirée de Karl Barth avait occulté. Un très beau texte le fait voir.
Quelle chose convient mieux à la foi que de nous reconnaître nus de toute vertu pour être vêtus de Dieu, vides de tout bien pour être remplis de lui, serre de péché pour être délivré de lui, aveugle pour être de lui illuminé, boiteux pour être de lui redressé, débile pour être de lui soutenu, de nous ôter toute matière de gloire afin que lui seul soit glorifié, et nous en lui.
Alors vous le voyez, je dirais, l'exaltation de Dieu, c'est évidemment la reconnaissance de la petitesse de l'homme, mais je dirais qu'en exaltant Dieu, l'homme est associé à cette glorification, n'est-ce pas? C'est en glorifiant Dieu que nous-mêmes, nous découvrons notre véritable dimension d'homme.
Comme peu de temps après Pascal.
Voilà, certainement. Certainement, je crois qu'il y a un rapprochement qui s'impose. Alors il y a un autre aspect dans la théologie de Calvin qui a été méconnu au siècle dernier et qu'on a redécouvert sous l'influence de la théologie de Barth.
Karl Barth, qui est un grand théologien allemand protestant du début du XXe siècle.
Théologien suisse. Il est suisse, mais qui a exercé ses fonctions professorales en Allemagne d'abord. Et Barth et les interprètes barthiens de Calvin sont venus nous révéler le rôle important, le rôle décisif que la personne et l'œuvre du Christ jouaient dans la théologie de Calvin. Indéniablement, il y a là un aspect qui avait été quelque peu oublié au siècle dernier. Un très beau texte montre bien la place que le Christ occupe dans cette théologie de Calvin. Je cite, « Puisque nous voyons toute la somme et toutes les parties de notre salut être comprises en Jésus-Christ, il nous faut garder d'en transférer ailleurs la moindre portion qu'on saurait dire. »
Si nous cherchons salut, le seul nom de Jésus nous enseigne qu'il est en lui. Si nous désirons les dons du Saint-Esprit, nous les trouverons en son onction. Si nous cherchons force, elle est en sa seigneurie. Si nous avons affaire de pureté, elle nous est proposée en sa conception. Si nous voulons trouver douceur et bénignité, sa nativité nous la présente, par laquelle il a été fait semblable à nous, pour apprendre d'être pitoyable. Si nous demandons rédemption, sa passion nous la donne. En sa damnation, nous avons notre absolution. Si nous désirons que la malédiction nous soit remise, nous obtenons ce bien-là en sa croix. La satisfaction, nous l'avons en son sacrifice. Purgation, en son sang. Notre réconciliation a été faite par sa descente aux enfers. La mortification de notre chair gît en son sépulcre. La nouvelleté de vie en sa résurrection, en laquelle aussi nous avons espérance d'immortalité. Si nous cherchons l'héritage céleste, il nous est assuré par son ascension. Si nous cherchons aide et confort et abondance de tout bien, nous l'avons en son règne. Si nous désirons d'attendre le jugement en sûreté, nous avons aussi ce bien en ce qu'il est notre juge. En somme, puisque les trésors de tout bien sont en lui, il nous les faut de là puiser, et non d'ailleurs.
Ce christocentrisme, comme disent les théologiens, c'est la négation du culte des saints, et c'est la remise en place, et je le dis en termes respectueux, je dirais, de la dévotion due à la Vierge Marie. Calvin hésite.
Ah oui, est-ce qu'il a écrit là-dessus ?
Eh bien oui, il connaît les décisions des conciles et en particulier l'appellation de Théotokos attribuée à Marie, Marie, mère de Dieu. Alors Calvin dit, cette appellation ne me plaît pas beaucoup. Bon, les théologiens peuvent la comprendre, mais cette désignation est mal comprise du peuple des fidèles. Elle encourage une dévotion, une piété, qui finalement porte ombrage au seul médiateur qu'est Jésus-Christ. Donc l'Église romaine, qui connaît fort bien la christologie, au fond, ne la vit pas dans sa piété. J'ajoute une chose, c'est que Calvin, très attaché au dogme trinitaire, et l'affaire Servet le montre bien, Calvin va souligner très fortement aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Et les théologiens qui se sont interrogés sur la portée de l'œuvre de Calvin, je pense en particulier en France au doyen Vindel qui a écrit un très bel ouvrage sur Calvin, ces gens-là se sont demandé en quoi pouvait consister, vous avez posé la question tout à l'heure, au fond, l'originalité théologique de Calvin. Parce que dans sa synthèse dogmatique, il reprend quantité d'éléments traditionnels. Eh bien, pour ces théologiens, pour Vindel en particulier, l'originalité de Calvin résiderait dans le développement qu'il a donné à la doctrine du Saint-Esprit. Calvin serait par excellence, vous le voyez donc, nous dépassons le Calvin théologien de celui de Gloria du XIXe siècle, nous dépassons le Calvin christocentrique découvert par la théologie de Barth, pour arriver à un Calvin très ouvert à la personne et à l'œuvre du Saint-Esprit, c'est le résultat des recherches les plus récentes sur la théologie du réformateur de Genève.
Ce que l'Écriture attribue à l'Esprit, et ce que nous expérimentons chacun de nous par effet, est bien éloigné des créatures. Car c'est lui qui est épandu partout, soutient et vivifie toutes choses au ciel et en la terre, et leur donne vigueur. Déjà, en ce qu'il n'est restreint en nul lieu ni limite, il est exempté du nombre des créatures. Mais d'inspirer essence, vie et mouvement à toute chose par sa vertu, c'est une chose notoirement divine.